Europe 1. Europe 1.
Françoise Vimeux, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez également au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et au laboratoire hydrosciences de Montpellier. Alors l'Organisation météorologique mondiale vient d'annoncer que non seulement 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,45 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. 1,45 degré, c'est presque 1,5 degré, le seuil donc qu'il ne faut absolument pas dépasser, nous a-t-on dit en 2015 au moment des accords de Paris. On n'y échappa pas en fait.
Alors en fait on n'y échappera pas, mais on n'y est pas. Et c'est important de rappeler que quand on parle d'un réchauffement de plus 1,5 degré par rapport au début du XXe siècle dans les accords de Paris, on parle au sens climatique du terme. Ça veut dire qu'on regarde des moyennes de la température sur 20 ans, 30 ans. Là, 2023, c'est une année où on tangente 1,5 degré et les projections climatiques nous disent qu'on va atteindre cette limite des accords de Paris dans la décennie 2030-2040. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, on aura 66% de chance ou de malchance d'avoir une température moyenne globale supérieure à 1,5 degré.
Et les conséquences, c'est?
Alors les conséquences, elles sont multiples. Il y a l'élévation du niveau des mers à cause de la dilatation thermique de l'océan. Un océan plus chaud occupe plus de place qu'un océan froid à cause de la fonte des calottes polaires et des glaciers. Il y a des conséquences aussi en termes d'événements météorologiques extrêmes. On sait qu'ils sont exacerbés à la fois en fréquence et en intensité par des températures plus élevées.
Justement, la NASA vient d'enregistrer un bond historique de la hausse du niveau des océans en 2023, 7,6 mm. C'est plus du double de la moyenne annuelle des trois dernières décennies, hein, 3,4 mm à ce moment-là. Là aussi, est-ce que c'est entièrement dû au changement climatique d'ailleurs?
Oui, alors l'augmentation du niveau des mers, hein, c'est vraiment ce dont je parlais, la dilatation thermique de l'océan et la fonte des glaces qui sont posées sur le sol. Et on voit vraiment là une accélération de cette montée. Depuis le début du XXe siècle, la mer a monté en moyenne de 20 cm et plus de la moitié, donc de l'ordre de 10 cm, a été gagnée depuis les années 1990. Et le taux d'augmentation par an s'élève décennie après décennie.
Oui, il y a une augmentation constante. Là aussi, quelles sont les conséquences?
Alors les conséquences de la montée du niveau des mers, eh bien, bien sûr, ça vient grignoter des territoires. On pense effectivement aux États insulaires, mais ça a aussi des conséquences pour tous les littoraux, en particulier en France, avec des submersions marines qui vont être plus importantes lors des tempêtes, avec des inondations chroniques dans certains territoires bas, des inondations à marée haute, encore plus pendant les grandes marées. Et puis, bien sûr, ça vient exacerber le phénomène naturel qui est l'érosion.
Françoise Vimeux, on a l'impression que tout se passe comme prévu, hein, mais plus vite que c'était prévu. Est-ce que tout s'accélère?
Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait ça se passe comme c'était prévu et ce qui était prévu est effectivement ce que l'on voit. Hein, quand on a une température en 2023 qui tangente 1,5 degré, eh bien on est conforme aux projections climatiques, même si on est dans le haut du panier des projections, on est quand même dans le panier.
C'est ce qu'avait dit le GIEC.
C'est ce qu'avait prévu le GIEC depuis les années 1990. Ce qu'on avait peut-être moins bien anticipé, c'est l'accélération de la montée du niveau des mers et peut-être que ce que nos modèles ne simulent pas très correctement, c'est par exemple l'augmentation assez rapide des températures estivales en France et en Europe de l'Ouest de manière générale. Mais grosso modo, on est dans les clous et en tant que climatologue, on n'est pas surpris de ce qui se passe.
Ça ne veut pas dire que les catastrophistes, les collapsologues, les théoriciens de l'effondrement ont raison.
On a dit que les climatologues étaient catastrophistes. En fait, ils étaient juste réalistes et nous continuons à être réalistes. Et donc, ce que nous prévoyons est à peu près ce qui va se passer du lot, les incertitudes que nous avons toujours mais qui sont de plus en plus faibles.
Et les collapsologues ont toujours tort?
Alors c'est pas une question d'avoir tort ou raison. Il est absolument nécessaire pour éviter, je dirais, le pire, à la fois d'atténuer ce réchauffement climatique, hein, dont les impacts s'intensifient et se généralisent à tous les territoires. Et puis, il est aussi absolument nécessaire de s'y préparer, de s'adapter.
Oui, on y reviendra justement, parce que c'est les deux leviers, hein, d'action qui nous restent. Hein. Mais je voulais attirer votre attention sur la température qu'il a fait à Rio ces derniers temps, Rio de Janeiro au Brésil, 42 degrés et 60 degrés en ressenti. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, en fait, la température ressentie, c'est pas une température réelle. Par exemple, l'hiver, quand il y a du vent, la température que l'on ressent, que notre corps ressent, est beaucoup plus froide, beaucoup plus basse que la température réelle. Lorsqu'on a des vagues de chaleur, dans un contexte où l'atmosphère est vraiment très riche en humidité, eh bien c'est l'inverse, la température ressentie est beaucoup plus haute que la température réelle. Et ça, c'est un vrai problème, c'est ce qu'on appelle les vagues de chaleur humide. Vous avez cité le Brésil, il y a eu une vague de chaleur humide extrême en février dans tout l'ouest du Sahel, dans le sud des pays qui bordent le golfe du Guinée. Ce sont des événements extrêmes qui sont particulièrement dangereux pour la santé. Pourquoi ? Parce que en fait, le seul moyen que votre corps a pour se refroidir, c'est de transpirer. La transpiration, en s'évaporant, va refroidir votre corps, mais si l'atmosphère est trop humide, ce mécanisme ne fonctionne pas. Et donc là, il y a vraiment des dangers importants pour notre santé.
Mais ces événements extrêmes ne risquent-ils pas de s'installer ou de perdurer, François Vimeux ? Il y a une grosse étude américaine, chinoise et européenne qui avait été publiée en 2020 par l'Académie des sciences américaines, qui prévoyait que d'ici 2070, un tiers de l'humanité risquait de vivre dans des températures aussi chaudes que celles que l'on trouve au Sahara, soit 3 milliards et demi de personnes quand même, hein, en Inde, au Pakistan, en Indonésie, au Niger, au Soudan. Des températures aussi chaudes que le Sahara, ça rend un endroit inhabitable.
Oui, alors en fait, on peut mettre des chiffres. On sait que si on va vers un réchauffement global de plus 4 degrés, on n'est pas exactement sur ces trajectoires, mais on pourrait atteindre ce réchauffement à la fin du siècle.
Vers 2 degrés pour l'instant.
Alors, pour l'instant, on est plutôt aux alentours de plus 3 degrés pour la fin du siècle et plus de degrés pour 2050. En tout cas, si on va vers ce genre de réchauffement, on sait qu'on a 50 à 75% de la population mondiale, essentiellement dans les territoires tropicaux et intertropicaux, qui vont être soumis quasiment tous les jours à des températures extrêmes, couplées à des humidités extrêmes qui sont des conditions dangereuses pour la santé.
On fait une pause, Françoise Vimeux, et puis vous allez nous expliquer nous avons quand même deux leviers d'action, hein, réduire les émissions de gaz à effet de serre et nous adapter.
Europe 1, 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Tadelli. Nous sommes ce matin avec la climatologue Françoise Vimeux. 1,45 degrés d'augmentation des températures moyennes sur la Terre depuis l'ère pré-industrielle. C'est ce que nous a annoncé l'Organisation météorologique mondiale. Et puis il y a la hausse, le bond historique de la hausse du niveau des océans en 2023. Ça, c'est la NASA qui nous l'a annoncé. 7,6 millimètres. Alors, vous le disiez, on a deux leviers d'action. Faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais on voit bien que c'est insuffisant, on n'y arrive pas, ou alors s'adapter.
Oui, alors le premier levier qui est l'atténuation, en fait, c'est absolument nécessaire, sinon on va continuer à battre des records de température année après année, les événements extrêmes vont continuer à s'intensifier, à être de plus en plus fréquents, et puis c'est absolument nécessaire parce que le deuxième levier d'action, c'est l'adaptation, et l'adaptation, au-delà d'un certain degré de réchauffement, elle devient complexe, voire impossible pour certains territoires. Et il est aussi nécessaire de s'adapter parce que on sait que quelles que soient les émissions dans les années à venir, la température va continuer à augmenter. Hein. On sait que lorsque l'on arrêtera d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température se stabilisera en 20 à 30 ans. Donc ça veut dire que là, pour les 20 à 30 prochaines années, on est obligé de s'adapter. On voit déjà les impacts du changement climatique aujourd'hui avec un réchauffement qui n'est que 1,2 degré au-dessus de la période pré-industrielle, on va vers 1,5 degré et donc les conséquences vont être beaucoup plus importantes.
Mais on est en retard en matière d'adaptation.
Voilà, oui, alors en fait, on est en retard pour l'adaptation en France et partout ailleurs. L'adaptation, en fait, ça prend du temps. Elle doit être discutée avec les populations ou bien les secteurs concernés. Et puis surtout, elle doit être correctement dimensionnée. On voit aujourd'hui, par exemple, des adaptations qu'on appelle des mal-adaptations qui vont, par exemple, se protéger d'événements extrêmes que l'on qualifiait d'extrêmes il y a 10 à 20 ans et qui seront des événements courants dans 10 à 20 ans. Et donc là, on a vraiment des soucis. Hein. Je pense par exemple aux digues que l'on pourrait construire pour se protéger des submersions marines. Si elles ne sont pas dimensionnées pour les événements à venir dans les décennies à venir, là, ça ne sert à rien.
Oui, et ça, c'est arrivé beaucoup ces dernières années.
Oui, c'est arrivé. On le voit aussi, par exemple, dans la rénovation thermique des bâtiments. On le voit aussi, par
exemple... Arrêtons-nous sur la rénovation thermique des bâtiments, parce que c'est un très, très gros chantier qui coûte très, très cher.
Exactement.
Il est déjà inadapté comme adaptation.
Alors, il y a aujourd'hui des habitations, des bâtiments neufs qui sont construits avec des normes qui sont déjà obsolètes pour les années et les décennies à venir. Et vous l'avez dit, c'est un chantier colossal et vous avez parlé du coût. Et le coût de l'adaptation est énorme, mais c'est aussi un frein, bien sûr, à cette adaptation.
Oui, mais alors c'est terrible si vous nous dites que les bâtiments qu'on construit aujourd'hui sont déjà avec des normes obsolètes.
Oh oui, c'est terrible, mais là je crois que c'est pour ça que l'adaptation doit vraiment être prise au sérieux. Elle doit être dimensionnée, elle doit être aussi différenciée d'un territoire à l'autre et elle doit aussi être organisée au niveau national. On voit beaucoup d'adaptations au niveau très local, au niveau départemental, mais tout ça doit être organisé au niveau national aussi pour être accéléré et aussi pour parler du coût qui est colossal.
Mais il faudrait faire quoi, par exemple? Sur quoi il faudrait insister aujourd'hui, à votre avis, Françoise Vibeau?
Alors, la rénovation thermique des bâtiments, c'est un chantier colossal. On est très en retard, donc il n'y a plus de temps à perdre. Il y a aussi l'adaptation des villes aux vagues de chaleur, hein, d'autant que pour chaque secteur et chaque territoire, on a des solutions d'adaptation. Les experts sur l'adaptation nous disent secteur par secteur, territoire par territoire, ce que l'on peut faire. Pour adapter les villes aux vagues de chaleur, on sait que c'est faire rentrer la végétation, c'est bien sûr rénover thermiquement les bâtiments parce que ça fait faire des économies de chauffage l'hiver et ça empêche la chaleur de rentrer l'été. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui a détaillé tout ça. On sait que repeindre des surfaces en blanc, ça permet aussi d'évacuer de la chaleur. Donc il y a un ensemble de solutions et je dirais malheureusement on est tellement en retard que il faut aller vite un peu partout.
Mais on a presque envie de dire que c'est toute notre architecture qui est à revoir parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à l'architecture, elle est forcément adaptée au climat. Or la nôtre n'est plus adaptée au futur climat qui nous attend.
Clairement, et donc ça veut dire en fait des changements structurels particulièrement importants, et c'est ça aussi qui freine, c'est que aujourd'hui on est dans une adaptation, je dirais réactive. Dès qu'il y a un événement extrême, on se dit oh, il va falloir s'adapter. Or il faudrait avoir une adaptation anticipative, et ça prend du temps, et ça c'est des chantiers colossaux. Et vous l'avez dit, nos villes sont pas du tout adaptées à des températures estivales très élevées.
Mais alors, vous l'avez dit, vous, l'adaptation, elle a ses limites. Il y a des zones, au-delà d'un certain nombre de degrés d'augmentation de la chaleur, il y a des zones qui deviendront inhabitables.
Oui, on peut prendre l'exemple des états insulaires que j'aime bien. Vous habitez sur une île et la mer monte graduellement. Tant que vous avez toujours un petit lopin de terre, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez essayer de vous placer sur le point culminant. Vous pouvez essayer de monter les habitations sur pilotis. En revanche, quand la mer aura trop montée et qu'elle aura recouvert votre île, eh bien, il n'y a plus d'adaptation possible, vous êtes obligé de partir. Et donc, ça pose la question de l'habitabilité de certains territoires.
Mais on pourrait dire ça aussi de la plage de Malibu, où les milliardaires de Los Angeles ont fait construire de très très belles maisons.
Oui,
on connaît l'érosion de la plage, on sait qu'elle diminue chaque année, à un moment, elles sont beaux et pâties sur pilotis.
Oui, il n'y a pas à partir aussi loin, on peut même parler du littoral français, on sait que notre littoral est particulièrement en danger avec l'élévation du niveau des mers. Et on a des maisons que l'on pensait assez protégées parce que finalement assez loin de la côte ou des falaises et qui sont aujourd'hui en première ligne. C'est le cas par exemple dans la ville de Fécamp où on a eu un éboulement l'année dernière, enfin plusieurs éboulements monstrueux. Et on a des routes et des maisons qui se retrouvent maintenant en bord de falaises et on n'aurait pas pensé franchement.
Alors ça, c'est l'élévation du niveau des mers, mais les zones inhabitables, parce qu'il y fera 40, 50, 60 degrés.
Oui, et bien par exemple, on peut voir l'année dernière en Espagne, ça a été vraiment très compliqué, à la fois à cause de la chaleur, à la fois à cause de la sécheresse. On voit la pénurie d'eau dans la région de Barcelone. Donc il y a aussi ce manque d'eau qui vient se faire sentir, à la fois pour notre consommation en eau potable, mais aussi pour l'agriculture. Et on peut se poser des questions sur comment ces régions vont s'adapter. Est-ce qu'elles vont réussir à s'adapter assez vite pour qu'on puisse continuer à y vivre confortablement?
C'est le cas aussi en France, il y a des régions qui sont comme ça?
Bien sûr, dans les Pyrénées orientales, on a une sécheresse depuis plusieurs années aujourd'hui. Évidemment, sur le reste de la France, il a tellement plu ces derniers mois que les nappes phréatiques se sont rechargées. C'est pas le cas dans les Pyrénées orientales. Et donc, la pénurie en eau nous guette.
Quelles autres régions en France risquent d'avoir des problèmes et doivent impérativement s'adapter, d'après vous, Françoise Vimeux ?
Alors, les régions montagneuses, hein, la Cour des comptes l'a rappelé, d'ici 2050, toutes les stations de sport d'hiver vont avoir des difficultés économiques, hein, parce qu'on perd en neige. Donc, si elles ne s'adaptent pas à de nouvelles activités, eh bien, c'est des pertes économiques énormes. Les régions littorales, hein, je les ai citées, à la fois à cause de l'érosion, les submersions marines, des inondations chroniques à marée haute ou pendant les grandes marées, des zones qui sont déjà inondables, qui vont le devenir encore plus à cause des inondations pluviales ou qui viennent des fleuves, hein, les inondations fluviales, et puis des zones qui n'étaient pas ou qui ne sont pas aujourd'hui forcément inondables et qui vont le devenir parce qu'on s'attend à avoir peut-être dans certaines régions moins de pluie, mais quand on aura des pluies, elles auront des volumes beaucoup plus conséquents parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir beaucoup plus d'eau.
Dernière question, Françoise Vimeux, il nous reste très peu de temps. Il y a quand même des régions qui vont bénéficier de ce réchauffement où il va devenir peut-être agréable de vivre alors que ça n'était pas le cas.
Alors en fait, les rapports du GIEC nous disent que sur certaines régions, il peut y avoir à court terme des effets bénéfiques d'avoir une température plus chaude. Ce sont des effets bénéfiques sur certaines cultures, par exemple, que l'on ne pouvait pas faire en Europe du Nord et que l'on va pouvoir finalement réaliser. Mais ça veut dire que ces cultures qui étaient faites plus au sud, elles ne pourront plus être faites. Donc en fait, les aspects positifs dans certains secteurs ou sur certaines régions, eh bien, c'est aux dépens, c'est en miroir d'aspects négatifs dans d'autres régions, dans d'autres secteurs. Et en tout cas, ça n'est des aspects positifs qu'à court terme.
Merci Françoise Vimeux, tout ce que vous nous avez dit était très clair. On a maintenant rendez-vous avec Jean-Hervé Lorenzi, on va parler d'économie. Là aussi, la situation est assez alarmante.